C'était il y a 2 ans. Les Outre-mer se soulevaient au point d'occuper le devant de la scène médiatique. Il n'était pourtant pas question de cyclones ni d'éruptions volcaniques, mais de vie chère, de chômage, de délabrement économique, dans des contextes locaux pourtant relativement différents. Quoi de commun en effet entre la Réunion, les insulaires Antilles et la Guyane, la crise identitaire, séquelle douloureuse de cette étrange schizophrénie. Comment appartenir à l'identité qui a fait de vous des esclaves, la fierté moteur du redémarrage, 52 ans après la départementalisation, des voix s'élèvent pour retrouver une histoire structurante. Exemple, Serge Romana, médecin à l'hôpital Necker à Paris.
Si on juge avoir ou non des problèmes en fonction de la réussite sociale, on va dire que j'ai moins de problèmes que beaucoup de personnes.
2 ans après, la crise des Outre-mer, comment est-ce que vous l'analysez ?
La crise, pour moi, est l'aboutissement en fait d'une période où l'économie de plantation a été terminée, c'est-à-dire c'est 1952, c'est l'arrivée de la France dans le marché commun, et donc la désagrégation de l'empire français, en tout cas l'empire économique, au terme où il y avait une sorte de protectorat français sur la production de canne à sucre, donc la fin de l'économie de plantation. Et là, il n'y a pas eu de solution économique pour les DOM, aucune. Et donc, a commencé premièrement la grande migration des Antilles ici, a commencé la mise en place d'une société de consommation, le chômage de masse. Et avec la crise mondiale, ceci a exaspéré en fait une population qui elle-même vit dans le ressentiment par rapport à la République. Donc ressentiment, crise économique mondiale sur une société extrêmement fragilisée, société de consommation, pas de production, petits emplois, chômage important, petit fonctionnariat, la moitié des jeunes vivant dans des familles monoparentales, crise de l'autorité politique, religieuse, familiale, ça explose.
Les familles monoparentales, c'est spécifique à la Guadeloupe, c'est assez étonnant ça, non ?
Non, c'est-à-dire qu'en fait, la monoparentalité, on la trouve dans différentes sociétés, bien sûr. Ce qui est spécifique à ces sociétés, c'est la matrifocalité. C'est différent. La matrifocalité, c'est un mode de parenté où la mère est au centre, en fait. Et les pères sont pères de façon facultative. En gros, une femme trouve naturel qu'elle puisse élever tout seul son enfant. Ouais. Donc à ce moment-là, vous avez une proportion importante de femmes avec des enfants de pères différents, qui est un système qui vient d'esclavage. Le père était exclu, en fait, des choses fondamentales dans la famille. Les hommes n'étaient pas capables de protéger femmes et enfants en esclavage.
Il y a aussi un autre élément, c'est que la Guadeloupe est recordman des grèves.
C'est-à-dire que la revendication politique s'est structurée en Guadeloupe sous la forme de mouvements sociaux très forts. Depuis le départ, depuis la fin du 19e siècle, il y a des fortes grèves dans la canne à sucre, dans les années 50, et puis le mouvement nationaliste s'est appuyé sur une pratique de grève dans les campagnes.
Parce que c'était le seul moyen ?
Parce que c'était, en tout cas pour le nationaliste, c'était le maoïsme, c'est-à-dire c'était la paysannerie. La lutte des classes, c'était pas la classe ouvrière contre le prolétariat et puis le capital, c'était la paysannerie. Donc dans les années 70, il y a eu une organisation de la paysannerie de façon différente de ce qui se passait dans les années 50, c'est-à-dire qu'une organisation des syndicats indépendants, des syndicats métropolitains, avec des éléments culturels, la langue revendiquée, la musique traditionnelle revendiquée. Donc c'était vraiment le mouvement nationaliste s'est développé sur le mouvement paysan, sur l'organisation du mouvement paysan. Donc mouvement paysan qui a servi la base de la structuration politique du mouvement nationaliste guadeloupéen.
On parle beaucoup d'assistanat dans ces régions. Est-ce que la crise est quand même pas une forme de réaction, de prise en main ?
Vous savez, c'est pas honnête de parler d'assistanat parce que l'assistanat, ça veut dire que les gens ont choisi d'être assistés. C'est faux. C'est-à-dire que jusque dans les années 1952, les Guadeloupéens et les Martiniquais ont produit de la canne à sucre, du rhum, du café. Ils n'étaient pas assistés. D'abord comme esclaves, puis après comme paysans pauvres, comme ouvriers agricoles, comme colons partiels. Et simplement, lorsque l'industrie sucrière a été restructurée parce que produire de la canne à sucre en Guadeloupe en concurrence avec d'autres pays dans le monde n'avait strictement aucun sens. Il n'y a aucune solution économique qui a été proposée. Je vous rappelle qu'a été mis en place pour lutter contre le chômage l'immigration antillaise avec le Bumidome, qui est une migration les plus importantes du XXe siècle. Et puis le reste, les gens n'avaient pas à travailler. Donc lorsqu'on parle d'assistanat, c'est une malhonnêteté intellectuelle. C'est pas sérieux. Non, ce qu'il y a, c'est que, comme je vous l'ai dit, énorme chômage, des fonctionnaires en même temps qui voient avec la crise leur niveau de vie diminuer. Vous aviez donc des fonctionnaires et des chômeurs dans la rue, de façon massive, vraiment massive. Dans un contexte, et c'est ce qui est la particularité de la Guadeloupe, où il y avait un mouvement nationaliste qui s'était développé dans les années 70-80, qui ont d'une certaine façon encadré ce mouvement de masse. D'où le LKP, le langage créole, c'est-à-dire que le terme n'est pas un terme français, LKP. Et puis avec une rhétorique de « on va développer notre pays », etc., etc., etc. C'est-à-dire par derrière, il y avait en fait toujours le rêve nationaliste.
Aujourd'hui, est-ce que c'est un peu séparé ou alors est-ce que ce n'est plus tout à fait la question? Le statut des îles, c'est plus la question centrale. Comment ça se pose en fait?
Je pense que le mouvement LKP l'a démontré en fait, hein, puisque comment il l'a démontré? Il l'a démontré parce que vous aviez en fait une masse importante de personnes qui disaient la Guadeloupe est à nous, c'est pas à eux, etc., etc. Et pourtant, un an après, c'est un des hommes qui a défendu la République, Victorien Lurel, qui a été élu au premier tour, aux élections du Conseil régional. Ce qui montre qu'en fait, ce qui a été dit dans la salle, les Guadeloupéens aspirent à s'émanciper, à être fiers de ce qu'ils sont, aspirent à une dignité, mais pas forcément à une rupture. Ils aspirent à être respectés. Je pense qu'ils aspirent eux-mêmes à se respecter eux-mêmes, à être fiers de ce qu'ils sont. Mais l'équation difficile, c'est qu'il y a le Guadeloupéen lui-même, qui est un descendant d'esclaves, et qui n'est pas encore affilié à ses propres parents esclaves.
Parce que c'est un petit peu en cours à la fois révérer ses ascendants et plutôt que d'être dans le ressentiment, passer à autre chose pour conquérir sa propre dignité.
C'est tout le travail que le CM98 effectue. Depuis...
Qu'est-ce que c'est le CM98?
Le CM98, c'est le comité marche du 23 mai 98, en référence à la marche du 23 mai 1998, où nous étions 40 000 dans les rues de Paris, entre République et Nation, à dire que ces personnes qu'on appelait esclaves étaient nos parents. Ceux qui étaient une rupture avec ce qui se passait aux Antilles où les esclaves étaient évoqués, soit étaient rejetés, soit évoqués par une minorité pour dire « Regardez ce que la France a fait, il faut qu'on se batte contre la France ». Là, nous avons inversé le problème en disant « Ce sont nos parents ». L'idée étant qu'il fallait plutôt avoir une démarche d'affiliation, inverser le stigmate de l'esclave pour sortir de la honte, et en sortant de la honte, acquérir la fierté humaine, simple, d'être issu en fait de cette histoire tragique, mais quand même, histoire qui a produit des êtres, ce que nous sommes, des Antillais, hein, puisqu'on aurait pu, périr, nos parents auraient pu périr dans le bateau et puis on n'aurait pas été là. Ils auraient pu nous assassiner à la naissance pour qu'on puisse pas voir le jour, mais ça s'est pas fait. Ils ont été esclaves, c'est pas de leur faute. Ils ont survécu et on doit en tirer la fierté d'être des humains comme les autres humains. Et je pense que, en tout cas, c'est toute notre philosophie, c'est la philosophie de cette marche de 98 qui veut que justement, eh bien, on doit être fier de ce que l'on est. Mais pour cela, il faut que la République aussi puisse accepter cette identité de Français descendants d'esclaves. Et c'est pourquoi on s'est battu pour qu'il y ait autre chose que le 10 mai, qui est une date de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et aujourd'hui, le 23 mai est devenu officiellement, hein, comme le 10 mai, la date, mais pas de commémoration de l'abolition de l'esclavage, mais de commémoration des victimes de l'esclavage, de nos parents. Et c'est un double mouvement, la fierté de dire nous sommes des descendants d'esclaves et la fierté de voir la République honorer nos parents. Ça, tout ça est un double mouvement qui doit aboutir à inverser le stigmate de l'esclavage et à sortir du ressentiment et à avoir un rapport plus normal avec les autres, avec la République, avec les autres. Et puis le choix politique, quelque part, il est un petit peu secondaire.
C'est ce que vous faites, vous. Vous êtes médecin à Necker, c'est ça, à Paris. Et en plus, vous vous occupez de ce travail.
Oui, je suis professeur de médecine. Je suis généticien à Necker Enfants Malades. Ça, c'est mon premier métier. Et mon deuxième métier, c'est de structurer ce mouvement qui effectue aujourd'hui un travail généalogique important pour faire un Antillais connaître son aïeul esclave. Donc on a fait un énorme travail de 3-4 ans où on a ressorti l'identité de près de 160 000 personnes dans les archives. Donc un Antillais peut savoir aujourd'hui quel était son aïeul qui a vécu en 1848. Son nom, son prénom, son matricule, l'endroit où il était esclave, l'habitation, le nom de son maître. Moi, mon nom vient de 1848. On nous a nommés en 1848, comme beaucoup de mes compatriotes. On fait donc ce travail-là qui est On travaille aussi, il y a un petit groupe faisant un travail de bénédictin. On est en train de sortir notre deuxième livre de noms. On a fait un mémorial de la traite et de l'esclavage où il y a tous ces noms sur près de 250 panneaux. Et là, on a monté une université populaire, non seulement pour apprendre nous-mêmes cette histoire, mais aussi pour l'enseigner dans les collèges. On va dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, pour parler esclavage, pour parler diversité, pourquoi les gens ont telle couleur de peau, etc., etc., pour apporter notre petit grain de sable à la lutte contre le racisme.